Je lis les pages d'un livre.
Les dieux des petits riens.
Le monde est alors celui de ce livre.
Nabokov.
Le monde est dans le livre.
100 ans de solitude.
Le monde est le livre.
Littérature sans frontières. Sophie Écoué, Camille Geoffrey.
Ce livre n'est ni une fiction ni du journalisme, mais un travail de mémoire. Et s'il est sujet aux caprices de la mémoire, il est fidèle aux histoires dont je me souviens. Un personnage mineur étant composé de plusieurs hommes que j'ai connus, et les noms de la plupart des gens en dehors de ma famille ont été changés.
Bonjour à tous. Notre invité cette semaine est Jacques Lamarre. Jacques Lamarre, bonjour et merci d'ouvrir cette émission avec cette lecture. Une lecture qui précise bien les choses d'entrée de jeu. Jacques Lamarre, on vous connaît en France grâce à vos romans, dont je cite quelques titres. Le Caméléon Noir, Nous avions un rêve, Rendez-vous dans le 18e, ce sont tous là des romans noirs, des polars urbains. Et Confession d'un fils modèle, votre premier roman écrit il y a 20 ans, vient de paraître en France, traduit chez Payot dans une traduction de Françoise Bouillot. Alors, chose assez étrange, ce roman qui portait le titre de Bourgeois Blues, le titre a été complètement changé en français. C'est maintenant devenu Confession d'un fils modèle.
Oui, oui, c'est dingue. C'est mon seul livre publié aux États-Unis avec un mot français dans le titre. Mais Christophe Guillas, mon éditeur chez Payot, il voulait un titre qui peut mettre l'accent sur la relation père-fils au lieu de l'histoire de la société américaine. Et en fait, dans ce livre, et je dois préciser, ce n'est pas un roman. Mmh. Tout dans le livre est vrai. Je parle de ma relation avec mon père qui est né très pauvre dans l'état de Georgie en 1932. Et il a grandi dans un milieu où il y avait des lynchages, la ségrégation pure et dure, le refus de droit de vote. Il était très intelligent et il a gagné une bourse pour aller à l'université, mais il ne pouvait pas choisir son université à cause de la ségrégation. Donc, il est allé à l'université noire en Georgie, Morehouse College, une très bonne université. Martin Luther King était là en même temps, mais mon père n'avait pas de choix et il a ressenti ça. Moi, j'ai grandi pendant les années 60 dans le Bronx, dans des circonstances beaucoup plus agréables de mon père. Mais j'ai choisi ce titre, Bourgeois Blues, parce que ça vient d'une chanson de blues de Lead Belly, grand chanteur de blues des années 30 et 40. Et dans cette chanson, il raconte l'histoire où lui et sa femme, ils ont cherché un logement à Washington D.C., et ils sont refusés par tout le monde parce qu'ils sont noirs. Et ils chantent « This is a bourgeois town, I got the bourgeois blues ». Et je pensais que c'était très bien pour l'histoire de mon père qui rêvait d'être un nabab dans le monde des bâtiments à New York. C'est un milieu très corrompu. Mon père a travaillé avec les gens malhonnêtes. Il a tout perdu et il s'est évaporé pendant 5 ans. Et j'ai pensé que cette chanson, le désir de mon père d'être dans la bourgeoisie, c'était bien pour son histoire.
Marissa était une fille de 15 ans, sérieuse et séduisante, avec de longs cheveux frisés et un goût marqué pour les grandes jupes paysannes et les chaussures plates. Nous nous étions rencontrés à une fête vers la fin de la seconde et nous ne nous étions plus. Un mois environ après notre rencontre, alors que nous étions assis sur un banc de Central Park, elle plissa le nez et dit
« Alors, qu'est-ce que ça fait d'être noire ?»
Ce fut surtout le ton de Marissa qui me prit par surprise. Il y avait dans sa voix quelque chose de suffisant et de clinique. Remarquant comment elle rétrécissait les yeux et penchait la tête avec curiosité, j'eus soudain le désagréable sentiment qu'elle me considérait comme une sorte de spécimen anthropologique. « De quoi tu parles ?»«
Quel effet ça te fait d'être noire ?»«
Ouais, ça me plaît, mais j'aime bien aussi avoir des bras et des jambes. »
Non, ce que je veux dire, c'est que tu dois voir les choses du point de vue d'un noir.
C'est sûr. De quel autre point de vue est-ce que je pourrais les voir?
Ne le prends pas mal. J'essaie juste de comprendre l'expérience noire.
Toute mon expérience est une expérience noire. En un mot, je n'ai aucune expérience blanche. Marissa secoua la tête d'un air agacé. Elle se considérait comme une jeune femme politiquement correcte et elle me posait en toute simplicité une question politiquement correcte. De mon côté, je sentais que Marissa attendait de moi une réponse socialement édifiante, qui serait conforme à son idée d'une conscience noire générique. Et si je ne fournissais pas la réponse qui cadrait avec ses idées, alors je ne devais pas être un black authentique. Je ne savais pas comment j'étais censé lui faire comprendre mon existence. Comment pouvais-je lui expliquer qu'être noir était la chose la plus importante de ma vie et en même temps absolument sans importance pour moi?
Donc on traverse ce récit qui s'étale sur plusieurs années. On fait un retour dans sur la vie de votre père, même plus loin, de votre grand-père, on va en reparler tout à l'heure, de toute cette fratrie, de cette famille, des femmes de cette famille, avec l'itinéraire de votre père. Et en fait, on revient à vous, parce que vous dites qu'en fait, que votre père, il a connu en Géorgie une grosse machine de racisme, et que vous, vous l'avez connu dans un système beaucoup plus insidieux. Parce que votre père a fait de brillantes études, d'excellentes études. Vous aussi, vous avez été à Harvard University, une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Et là, vous avez connu un autre visage du racisme.
Oui, oui, absolument. Un racisme très subtil et souvent difficile à cerner. Et une méfiance qui existe aux États-Unis pendant cette époque. Une vraie méfiance entre les Noirs et les Blancs.
Même entre les Noirs, parce que dans le livre, il s'agit de ça aussi. Les Noirs qui s'en sortent, les Noirs deviennent des bourgeois et ils ne regardent plus en arrière, ne regardent plus d'où ils viennent.
Oui, oui, et il y avait une grande tendance aux États-Unis depuis la fin du mouvement pour le droit civique en 68 avec l'assassinat de Martin Luther King. Pendant les années suivantes, il y avait de plus en plus de Noirs qui sont entrés dans la classe moyenne et de plus en plus de Noirs qui sont entrés dans les prisons. Et ça créait une rupture dans la communauté noire, comme on dit aux États-Unis, mais on parle de 40 millions de citoyens. Mais les Noirs qui ont réussi grâce à ce mouvement pour le droit civique et les Noirs qui sont restés victimes de ce système de caste qui a commencé avec l'esclavage et on voit les vestiges de ce système aujourd'hui. Malgré tout le progrès des 40 dernières années, les Noirs restent au niveau la plus bas de l'échelle sociale aux États-Unis.
Et rien n'a changé avec le miracle qui vient de s'opérer, qui a un nom et un prénom, Barack Obama?
Ouais, beaucoup a changé, mais les problèmes sont dans le système.
C'est ce qui explique que vous avez choisi Paris comme... d'ailleurs, vous êtes le seul au monde à avoir la nationalité parisienne. Je crois que vous vous dites que vous êtes... Votre nationalité, elle est parisienne. Paris, pour vous, la France, pour vous, c'était quoi? C'était un exil pour fuir tout ça, pour sortir, non?
Pas du tout un exil. Et en fait, ma première inspiration de venir en France, c'était l'écrivain James Baldwin. Et quand j'ai lu le premier roman de Baldwin, qui est très autobiographique, il a parlé de son enfance à Harlem, jeune homme noir dans une famille difficile. Moi, j'avais 12 ans, j'étais dans une famille difficile dans le Bronx et j'étais bouleversé par ce livre et j'ai demandé à mon prof qui est James Baldwin et il m'a dit il habite à Paris. Et c'était une idée complètement exotique pour moi que quelqu'un avec des racines comme ça pouvait vivre à Paris. Et je pensais à l'époque, peut-être si un jour je suis écrivain, peut-être je vais à Paris. Après Baldwin, j'ai lu Richard Wright, Ernest Hemingway, Henry Miller, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein. C'est une longue liste des écrivains américains qui étaient attirés par Paris. Et donc, j'avais envie de voir pour moi-même. C'était 2 ans après la publication de Bourgeois Blues, Confession d'un fils modèle. J'ai gagné un prix littéraire pour ce livre et c'était juste beaucoup d'argent pour moi. Et donc, quand je suis arrivé à Paris en 93, j'ai pensé que j'allais rester pour un an. Je connaissais une personne dans la ville, l'ami de l'université avec qui j'ai partagé un appartement. Et je ne parlais pas un mot de français. Et j'ai adoré la ville et je suis resté une deuxième année. Et à la fin de la troisième année, j'ai rencontré ma femme et je suis resté.
Vous êtes resté, Jack Lamar. Votre livre, Confession d'un fils modèle, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi un livre qui peut s'appeler « Mon père, ce héros ». Un père tyrannique, un père qui était à la fois l'eau, le feu, qui peut être tendre, doux, mais aussi violent et très dur. C'est un père que vous aimez au-delà de tout et malgré tout. Hein, ça se sent avec la tendresse avec laquelle vous racontez tout, ce qui allait comme ce qui n'allait pas, ce qui marchait comme ce qui claudiquait.
Oui, oui, et j'ai pensé quand j'ai commencé à écrire ce livre que Mon père était la personne la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. Et il était comme un personnage littéraire. Et j'ai réalisé que j'étais le seul écrivain qui pouvait transformer sa vie en littérature. Je pense qu'il est quelqu'un tourmenté, très complexe. Et je ne peux pas dire que je le comprends aujourd'hui. Hein. Il reste un mystère pour moi.
Comme nous tournons le coin pour entrer dans la cuisine, Pain en sort comme une fusée, passant devant nous comme si nous n'étions pas là. Il entre dans la salle à manger, jette un saladier de gombo réchauffé sur la table et s'assied. Il a encore sa veste et sa cravate. Tandis que Berthe lit chez moi, restons plantés là à le regarder stupidement, Pain attaque le gombo, avalant le bouillon avec bruit sans lever les yeux du fond du saladier. Il soulève une cuisse de poulet et mord dedans. Je regarde les muscles de sa mâchoire pendant qu'il mâche. Sa tempe droite, luisante de sueur, fait saillie à chaque bouchée. Par la porte de la cuisine, je vois Maman dans sa chemise de nuit jaune, les cheveux en bataille, qui ramasse lentement les objets et les remet dans les placards et le frigo.
Femme, prépare-moi un verre.
Vous trois, vous retournez au lit. Fais ce que je te dis, Lich. Retourne te coucher.
Tu m'entends, femme ? Serre-moi un verre.
Tu n'as qu'à te le servir toi-même. Ramasse-moi ça. J'en ai marre de toi, je peux plus supporter ça.
Va te faire foutre.
Tu ne me parles pas sur ce ton.
Va te faire foutre. Va te faire foutre.
Tu ne me parles pas comme ça devant les enfants.
Va te faire foutre.
Ta gueule. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule.
Papa, non.
Mon vase. Tu as cassé mon vase d'anniversaire. Mon vase. Mon vase d'anniversaire.
Personne ne bouge. Maman est debout, toute seule, en larmes. Mon frère, ma sœur et moi contemplons le vase, maintenant brisé en une douzaine d'éclats de verre. Nous avions économisé sur notre argent de poche pour ce cadeau d'anniversaire de mariage l'année précédente.
C'est un livre aussi, on disait tout à l'heure, sur la filiation intellectuelle. Vous avez cité tous les écrivains qui ont tracé la route pour vous, la route de la France, la route de Paris. C'est aussi une filiation au plan familial, parce que l'on se transmet chez les Lamar une sorte d'excellence, l'excellence dans les études, mais aussi ce patronyme. Jack Lamar, fils de Jacob Lamar, Virgile, et petit-fils de Jacob Lamar.
C'est plutôt commun aux États-Unis. Il faut pour un père de passer son prénom au fils. Et donc, mon grand-père était simplement Jacob Lamar. Mon père, Jacob Virgil Lamar, deuxième prénom. Et moi, je m'appelle Jacob Virgil Lamar Jr. On voit la même chose avec la famille Bush. Hein?
Oui, oui. Mais on se doit aussi, en portant ces noms-là, de porter autre chose que ce nom Jacques Lamar. C'est ce que j'ai compris en lisant ce livre.
Oui, absolument. Il y avait une ambition énorme dans ma famille. Même avec ma grand-mère qui a passé toute sa vie comme femme de ménage. Elle a poussé mon père de réussir. Et pour elle, elle m'a dit tout le temps, il n'y a aucune excuse pour la paresse. Hein, il faut travailler. Ça, c'était quelque chose qu'elle a dit tout le temps. Il faut travailler. Et je pense que j'ai publié 6 livres aux États-Unis et je pense que mon approche à mon travail, à mon écriture est très disciplinée grâce à cette attitude dans ma famille.
Oui. Il y a comme ce feu sacré qu'on se passe comme relais hein, de génération en génération. Est-ce que votre père a lu ce livre, Les Confessions d'un fils modèle bourgeois blues?
Oui, alors avant la publication, j'étais vraiment angoissé. J'avais peur que ma famille allait détester le livre. La première personne dans ma famille qui a lu les épreuves, c'était mon frère. Et il a adoré. Ma mère et ma grand-mère, elles ont lu et elles m'ont dit, toutes les deux, « Tu as raconté la vérité ». Avec la publication du livre, j'ai trouvé que dans ma famille, toute ma famille, des cousins, cousines, tantes, oncles autour des États-Unis, tout le monde adorait le livre, sauf mon père. J'ai entendu deux choses, qu'il n'a pas lu le livre et qu'il déteste le livre. Et il est possible que les deux sont vrais. Qui n'a pas lu le livre et qui déteste le livre.
Ça vous chagrine, Jacques Lamar?
Mon espoir est qu'un jour, mon père peut réaliser que le livre, c'est une espèce d'hommage. Et pour moi, en tant qu'écrivain, de transformer la vie de mon père en littérature, c'était une espèce de valorisation. Mais nous ne sommes pas en contact et il n'a pas envie de restaurer, de recommencer notre relation. Et donc, oui, il y a un peu de chagrin, mais je suis très, très soulagé et très heureux avec des réactions de lecteurs que j'ai reçues pendant les 20 ans depuis sa publication. Je me souviens, c'est toujours touchant comme une personne noire aux États-Unis qui avait des expériences similaires sont touchées par le livre. Mais il y avait des autres cas. Et je me souviens, j'ai rencontré une Autrichienne de 92 ans. Et elle m'a dit, quand j'ai lu ton livre, j'ai pensé à ma père, à mon père. Et je pense que j'ai capté quelque chose qui arrive dans beaucoup de familles, n'importe quelle racine ethnique.
En 1957, dans l'Arkansas, État du Sud, il fallut faire appel à la troupe pour assurer l'intégration scolaire décidée par le président Eisenhower et permettre aux élèves noirs d'entrer au lycée avec les élèves blancs.
Pour moi, les limites entre le monde noir et le monde blanc avaient toujours été plus floues. J'avais grandi en considérant ma race comme un acquis. Je suis né en 61, pendant l'âge d'or du mouvement des droits civiques. À l'école, on m'a appris l'histoire afro-américaine, on m'a fait lire la littérature afro-américaine. À la maison, j'ai été élevé dans l'idée que j'étais l'égal de quiconque, qu'il soit noir ou blanc. Je jouissais davantage, dont la plupart des noirs de la génération de mon père et de beaucoup de la mienne propre auraient à peine osé rêver.
En 63, avec Luther King, avec Harry Belafonte, 200 000 noirs prirent la route de Washington. Ce fut une réussite.
Une éducation de classe moyenne, une scolarité dans le privé, un diplôme de Harvard et un poste de rédacteur à la rubrique Nation du magazine Time. Je m'efforçais de mener ma vie selon le credo du révérend King, en jugeant les gens non d'après la couleur de leur peau, mais d'après leur caractère. Et je supposais simplement que tous les êtres humains, doués de raison, en faisaient autant.
Jacques Lamar, on revient à vos histoires. Vous travaillez toujours sur cet héritage culturel, politique et social des Afro-Américains. Vous vivez à Paris, vous avez écrit des histoires sur Paris, vous avez écrit ce récit donc il y a une vingtaine d'années sur votre famille, sur la société américaine. On peut se dire, pourquoi vous écrivez? Pourquoi vous vous mettez à table? Pourquoi vous avez envie de raconter des histoires? D'où ça vient?
Et je pense que la plupart des écrivains ne peuvent pas répondre vraiment. C'est un besoin. Je dirais que tous les écrivains commencent en tant que lecteurs. Et c'est la passion de lire qui créait la passion d'écrire. Mais pourquoi j'ai besoin de continuer? C'est un mystère pour moi, vraiment. Et il y avait des moments où je pense, ah, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, je n'ai pas un grand lectorat, je ne suis pas best-seller, je n'ai pas gagné un prix Pulitzer, j'ai envie de quitter le métier. Et j'ai essayé deux, trois fois, mais chaque fois, quand j'ai essayé de quitter, j'ai trouvé que j'étais inspiré d'écrire un autre roman. Et c'est quelque chose vraiment à part de moi qui me propulse de continuer d'écrire.
Il y a des voix qui vous susurrent des choses.
J'entends les voix de personnages, absolument. Les idées pour mes livres viennent toujours par des personnages. Je suis toujours inspiré par des personnages, par l'envie d'explorer les mystères des êtres humains. Mais souvent, quand je suis dans mon studio, en pleine écriture, j'entends les voix de personnages, vraiment.
Et là, vous travaillez sur quoi en ce moment, le prochain?
Je peux dire que c'est un nouveau départ pour moi. Ce n'est pas un polar. Ça ne déroule pas à Paris et ça ne parle pas de questions raciales.
Notre invité cette semaine, Jacques Lamar. Jacques Lamar qui nous a rendu visite aujourd'hui avec sous le bras son récit Confession d'un fils modèle, une traduction en français de son livre Bourgeois Blues. Confession d'un fils modèle, paru en France chez Payot et traduit par Françoise Bouillot. Merci à Camille Walter, à Thomas Ferrière qui ont préparé, réalisé cette émission. La semaine prochaine, eh bien, vous retrouverez Catherine Fruchon Toussaint, qui recevra Emmanuel Carrère pour son roman D'autres vies que la mienne, paru chez POL. À la semaine prochaine.